Jésus, je t'aime. Mes frères et sœurs, si on nous demandait la raison de notre présence ce matin, n'est-ce pas cette réponse que nous apporterions ? Jésus, je t'aime. Si nous sommes là sans cette grande valeur d'être là parce qu'il nous a aimé le premier, alors mes frères et sœurs, nous sommes déjà les vaincus. Mais les vainqueurs, ce sont ceux qui savent aimer. Comme le dit le Christ, aimez-vous comme cela vous semble bon, non comme je vous ai aimé. Merci Claude.
Jésus.
Question. Votre réponse ? Amen. Oui, frères et sœurs, c'est une grande joie pour ma femme et moi de vous retrouver. Nous avez manqué, ça fait un mois, plus d'un mois, que je ne suis pas sorti de la maison, étant été secoué physiquement, très secoué. C'est ma première sortie aujourd'hui, vous voyez ? Secoué parce que quelqu'un ne m'aimait pas, il m'a fait la guerre, il m'a approché de la mort, au point que, aussi bien à Noël qu'au jour de l'an, je me suis retrouvé aux urgences. Ma femme m'a conduit aux urgences, je pensais que c'était fini, je ne pouvais plus respirer, j'avais l'impression d'être enfermé dans une boîte, mais grâce au Seigneur Jésus, la voix est revenue ! Grâce aux prières, grâce au secours de Dieu. Et je rends témoignage à mon frère Claude pour le bien qu'il m'a fait avec ses appels téléphoniques souvent fréquents. Vous savez, ça fait du bien, même si on n'est pas sœur, de recevoir un petit texto. On pense à vous, on prie pour vous. Ça fait du bien, pas vrai, hein ? Merci à vous tous s'il avait fait. Peut-être j'ai oublié de dire merci à plusieurs d'entre vous, mais vous tous qui vous l'avez fait, qui avez passé un petit coup de fil ou un petit message, merci, que Dieu vous le rende au centuple. Amen. Alors je vous invite, frères et sœurs, en ce début de l'année, ça vous ennuie pas, hein, ce début de l'année, de faire une lecture dans la parole de Dieu, parce que voyez-vous, dans le monde, quand on se rend compte au moment du jour de l'an, qu'est-ce qu'on dit ? On souhaite. Hein. Eh bien, je voudrais ce matin vous souhaiter 3 mots pour toute cette année de la part de Dieu, mais je vous les réserve pour la fin. On va commencer par s'introduire en lisant Ésaïe. Ésaïe au chapitre 41, pardon, Ésaïe au chapitre 51 et au verset 12. Ésaïe 51, verset 12. C'est Dieu qui parle directement au travers de son prophète Ésaïe. Voici ce qu'il dit. Dieu dit, c'est moi, virgule, c'est moi qui vous console. Est-ce que vous croyez que c'est vrai, frères et sœurs ? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui, au cours de l'année 2023 qui s'est terminée, ont été consolés par le Seigneur ? Pardon ? Qui a été consolé par le Seigneur ? Vous levez la main et vous dites... Qui n'a pas été consolé une seule fois. D'accord, bien. C'est moi qui console. Qui es-tu ? Et alors là, Dieu nous parle à nous. Pour avoir peur de l'homme mortel. Qui es-tu ? Pour avoir peur du fils de l'homme pareil à l'herbe. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait ? Qui a étendu les cieux et fonder la terre. Et tu tremblerais constamment, tout le jour, devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à te détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur ? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré, il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer, fait mugir les flots, l'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, je te couvre à l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et dire à Sion, tu es mon peuple, et nous pouvons ajouter. Amen. Mes frères et sœurs, nous avons là dans ce texte quelque chose de remarquable. Dieu nous dit, qui es-tu pour trembler constamment devant l'oppresseur? Est-ce que vous connaissez ce personnage particulier, l'oppresseur? L'oppresseur, c'est celui qui accuse, c'est l'accusateur, c'est celui qui persécute. C'est celui qui n'a qu'un but, faire du mal. Et l'Écriture nous dit que Dieu se pose la question et dit à son peuple, mais tu vas trembler devant l'oppresseur, virgule. Tu vas trembler devant la colère de l'oppresseur. Et effectivement, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui dans lequel vous et moi nous vivons sous la colère de l'oppresseur. Il est animé d'une grande colère. C'est écrit dans l'Apocalypse. Malheur à la terre. Satan est animé d'une grande colère. Et quand on s'aperçoit et qu'on regarde ce qui se passe dans le monde, on réalise que c'est pas le règne de Dieu, c'est vraiment le règne de l'oppresseur. Eh bien, Dieu nous dit ce matin, mes frères et sœurs, que nous devons cesser d'avoir peur de l'oppresseur et que ces craintes-là, au lieu de nous aider, nous enfoncent, nous allez le voir. La Bible d'ailleurs le dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est moi, dit Dieu, qui console. Et cette expression-là, voyez-vous, Jésus l'emploie souvent. Quand, en pleine tempête, les apôtres ont peur et ont l'impression que celui qui marche sur l'eau, c'est un fantôme, il répond, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Quand il est arrêté par une troupe pour être ensuite amené devant Pilate, les soldats prennent Jésus et les soldats. Et les soldats prennent aussi les apôtres. Et Jésus leur dit, mais qui cherchez-vous? Les soldats répondent, Jésus de Nazareth. Et Jésus répond, c'est moi. Et quand Jésus dit aux ennemis, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Il recule et il tombe. Cela veut dire que dans le nom de Jésus, Satan recule et il tombe, et l'Évangile nous dit, il est vaincu, écrasé, terrassé, dépouillé, et toi mon frère, toi ma sœur, tu es dans la victoire. Amen. Et c'est vrai pour cette année qui a déjà commencé. Si je lis attentivement ce que je m'aperçois, que Jésus a dit aux soldats, si c'est moi que vous cherchez, laissez ces gens-là. Voyez-vous, ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est que la personne de Jésus, c'est moi, soit toujours à la première place dans nos vies. C'est Jésus mon sauveur. Jésus, et j'ai beaucoup apprécié ce cantique, Jésus qui peut sonder ton amour. Et c'est parce que je sais que tu m'aimes que l'année 2024 ne me fait pas peur. Est-ce que c'est vrai? Il y a quelque temps, je me trouvais dans une maison. Je frappe, et il y avait une petite fille et sa maman. Et quand j'ai ouvert la porte, la petite fille s'est jetée, elle ne me connaissait pas, s'est jetée dans les bras de sa maman, elle s'est blottie. Et au bout d'un certain temps, après, quand je lui ai parlé, je lui ai dit, « Et pourquoi, quand tu m'as vu, tu t'es blottie près de ta maman ?»« Parce que j'ai peur. »« Et pourquoi justement près de ta maman ?»« Parce que ma maman, elle m'aime. » Et mes frères et sœurs, c'est pareil avec Dieu. Satan veut nous faire peur, mais au lieu de nous bagarrer, de le voir partout, blottissons-nous dans les bras de Jésus. Et là, nous serons pleinement vainqueurs par sa grâce toute puissante. Alors, regardons bien ce texte. Pourquoi vas-tu avoir peur de l'oppresseur constamment? Le diable m'a fait ceci, le diable m'a attaqué. C'est vrai, mais écoutez bien. Ça, c'est des mots qu'il faudrait détruire pour affronter cette nouvelle année. On sait qu'il nous attaque, on sait qu'il nous hait, mais dans le fond, vous savez, mes frères et sœurs, nous avons trois ennemis. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. La Bible nous dit que la chair, notre chair, a des désirs contraire. D'accord ? Donc, il faut se bagarrer avec soi-même. Et puis, il y a aussi le monde. Jésus dit, ne vous étonnez pas de ce que le monde vous est, parce que vous ne lui appartenez pas. Donc, la société est aussi, fait partie aussi de nos ennemis. Et puis, bien entendu, l'ennemi numéro un, l'oppresseur, bien entendu, ne nous aime pas du tout. Et devant ces trois ennemis, le Seigneur nous dit, n'aie pas peur, c'est moi. Et je voudrais vous montrer, avant de signaler ces trois paroles que j'aimerais vous laisser, mes frères et sœurs, cette parole de Jésus, d'Ésaïe qui dit, l'oppresseur, vous avez lu, où est-il ? Des fois, on a peur des hommes, on a peur des choses, on a peur des êtres. Mais quand on les regarde, où sont-ils ? Prenons un exemple. Moïse est élevé dans un foyer. Et la Bible nous dit que le papa et la maman de Moïse craignaient Pharaon. Ils avaient peur de Pharaon. Pharaon, quand il était en colère, il pouvait provoquer la mort. Eh bien, la Bible nous dit que Moïse a affronté la colère de Pharaon, et c'est pas Pharaon qui a gagné, c'est Moïse au nom de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et comment a terminé Pharaon? Pharaon a terminé noyé, enfoncé dans l'eau. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et Moïse a traversé avec le plus d'un million le peuple de Dieu en vainqueur. Satan a eu encore la tort. Pharaon noyé, le mal triomphant est écrasé par la grâce de Dieu. Prenons un deuxième exemple. Il y a un autre homme qui est terrible, Nabucodonosor. Et quand il était en colère, il pouvait provoquer des choses terribles. Et comme trois jeunes ont décidé de ne pas céder à son... à ses interventions, à ses lois. Vous connaissez ce texte de Daniel. Il est rentré dans une fureur terrible et a même changé de couleur tellement il était méchant. Il les a jetés dans une fournaise ardente. Et comment il s'est retrouvé, Nabucodonosor, au bout d'un certain temps? Il s'est trouvé complètement fou. Il ressemblait à une bête. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Pharaon, t'es en colère, tu finis noyé. Nabucodonosor, tu attaques le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, tu termines en perdant la tête. Et chaque fois, mes frères et sœurs, que dans la Bible, des gens se sont levés contre le peuple de Dieu, c'est toujours le peuple de Dieu qui a été vainqueur, parce qu'il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, n'ayons pas peur des hommes. La Bible nous dit que si on a peur des hommes, on est malheureux, car la crainte de l'homme tend un piège. Vous me direz, oui, mais il n'y a pas que simplement la peur des hommes, il y a la peur de la vie, la peur des circonstances, la peur des besoins matériels. Est-ce que je vais y arriver avec ma petite pension? Est-ce que je vais y arriver avec l'augmentation de l'électricité? Est-ce que je vais y arriver à pouvoir me loger? Et je me pose des questions, est-ce que je vais y arriver? Mes frères et sœurs, quand cet ennemi-là est venu, vient pour vous semer la crainte, parce que c'est toujours pareil, tu vois, réalisez que la parole de Dieu vous donne un exemple. Élie. Vous avez entendu parler du prophète Élie. Élie se trouve dans une période de sécheresse énorme. La famine est là. Et Dieu lui dit d'aller dans un endroit particulier où l'eau est abondante. Et Élie a été à l'endroit que Dieu lui avait désigné. Dieu a pourvu à tous ses besoins. Il avait l'eau, il avait le pain, il avait la viande. Tous les jours, franco de peur et d'emballage. Même Dieu a suscité une compagnie aérienne, Air Corbeau. Et Air Corbeau était toujours là présent le matin et l'après-midi. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Et oui, et dans un pays en pleine sécheresse, sans congélateur, mes sœurs, il avait de la viande fraîche tous les jours. Sans boulanger, il avait du pain tous les jours. Et le Dieu d'Élie, c'est le Dieu qui est ici. Amen. Le même Dieu. Car si c'est pas vrai, alors je dois retirer ça de la Bible. En 2024, est-ce que je vais avoir peur des hommes? Non. Est-ce que je vais avoir peur de manquer? Non. Rien ne manque, dit la Bible. Rien ne manque. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Essayez de le dire à haute voix avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Encore? Est-ce que c'est vrai?
Amen.
Alors, il peut y avoir aussi une autre crainte, frères et sœurs. En nous souvenant que quand Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre. Et ne laisse jamais ses enfants bloqués. Prenons. Alors, la crainte numéro un de tous les hommes, c'est la mort. Est-ce que je vais vivre en 2024? Et je sais que dans la nuit où j'étouffais, je pensais aller près du Seigneur, je réfléchis sur la vie et sur la mort. C'est un passage. Il faut l'accepter. Tôt ou tard, ça viendra. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait, la mort? À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un meurt, on dit, il a fermé les yeux. Tiens. Mais l'Écriture nous dit que lorsqu'on est dans le ciel, les yeux s'ouvrent. Donc la mort nous ferme les yeux, mais la foi nous ouvre les yeux. Quelqu'un qui est mort, il ne parle plus. Ça ne bouge plus. Mais l'Écriture nous dit dans l'Apocalypse, il loue le Seigneur. Quand quelqu'un meurt, il ne bouge plus. Et l'Écriture nous dit dans l'Apocalypse, ils marchent, ils suivent l'agneau dans tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que même la mort ne peut pas nous retenir, le corps, il reste, mais toute notre âme, toute notre intelligence, toute notre pensée, toute notre mémoire est là-haut dans le ciel. Frères et sœurs, si vous avez perdu un être cher au cours de l'année passée, souvenez-vous que ceux qui vous ont quittés sont infiniment, infiniment plus heureux que ceux qui sont encore sur la terre, et ils nous attendent, ce qui nous fait dire « Amen, viens Seigneur Jésus !» Et si on ne devance pas ceux qui seront morts, un signal donné à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants, nous partirons avec lui, car nous serons changés en un clin d'œil, et nous irons toujours avec le Seigneur. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, que je puis-je? Je vais avoir peur de la mort? J'ai la vie. Je vais avoir peur du diable, il est vaincu. Je vais avoir peur des hommes, Jésus est le plus fort. Non, Dieu, tu as raison quand tu dis, c'est moi qui console. Pourquoi serais-tu quotidiennement apeuré par l'oppresseur qui est vaincu? Cela nous amène, mes frères et sœurs, à réaliser chose essentielle. C'est que ne faut jamais prendre Satan comme étant un dieu. Il est une créature, comme vous et comme moi. Il est une créature. Puissante, ça c'est vrai, nous sommes d'accord. Mais il est une créature. C'est pas lui qui donne des ordres. S'il fait quelque chose, c'est parce que Dieu lui permet. C'est-à-dire que le mal, frères et sœurs, est sous contrôle. Et celui qui contrôle toute chose, c'est celui qui est assis sur son trône. Et celui qui est assis sur son trône, c'est ton père, c'est mon père, c'est notre père. Tout est sous son contrôle. Prenez l'exemple connu de Job. Si Satan a pu toucher Job, c'est parce que Dieu lui a permis. Et ainsi, mes frères et sœurs, tout ce qui peut arriver dans notre vie. Ne soyez pas surpris, non. Satan attaque. Si Dieu a permis, c'est parce qu'il a un plan. Et si Dieu permet que l'adversaire nous attaque, c'est qu'il a un plan. Et la Bible nous dit, et toute chose concourt au bien de celui. Or, l'important, c'est que notre amour pour le Seigneur ne varie pas d'un pouce. Et laissons le diable avec toutes ses grimaces, en parlons le moins possible, parlons le plus possible de Jésus. Car c'est lui qui est pleinement vainqueur. La Bible dit qu'avec Job, à qui Dieu a permis que l'adversaire qui l'accusait puisse attaquer Job. Vous avez vu ce qu'il a fait Job, Satan. Il a soufflé une tempête et il y a eu un accident terrible. Et tous les fils de Job, les enfants de Job, ont été tués. Satan a soufflé une tempête de mort. Le but de Satan, c'est d'essayer d'éteindre la flamme de Dieu. Or, ce qui est extraordinaire, mes frères et sœurs, c'est que Satan essaye d'éteindre, mais plus il essaye d'éteindre, plus la lampe brille. Je vous rappelle ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Satan veut éteindre le plan de Dieu. La parole de Dieu nous dit, Satan veut nous éteindre et nous endormir. Regardez bien, frères et sœurs. Le verbe éteindre, vous connaissez ? Satan voudrait éteindre les choses de Dieu. Savez-vous que vous et moi, ce matin, nous pouvons éteindre les traits enflammés de Satan ? Satan ne peut pas éteindre Dieu, mais nous, par la foi, nous pouvons éteindre Satan. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors, est-ce que je vais accepter d'être éteint par quelqu'un qui est encore plus éteint que moi ? Est-ce que je vais accepter d'être vaincu par quelqu'un qui est trois fois vaincu et vaincu éternellement ? Non, je résiste avec une foi solide. Je vais me blottir dans les bras de Jésus parce que je sais que mon sauveur m'aime. Quel père m'a fui pour ma foi ? Si je continue à lire ma parole, je m'aperçois que dans le fond, tous ceux qui se sont dressés et tous ceux qui ont voulu éteindre ou offenser l'œuvre de Dieu, ça finit mal pour eux. On va prendre Hérode. Vous avez entendu parler d'Hérode ? Un homme intelligent. Si vous avez été en Israël, on va vous montrer tout ce qu'il a pu réaliser. C'est un homme intelligent, c'est un constructeur. Seulement, Hérode a eu de grandes colères. Il a été en colère au moment de la naissance du Seigneur Jésus. Il a été en colère au temps des apôtres, et l'Écriture nous dit que quand il voyait le peuple de Dieu béni, il était très en colère. Lisez Acte 12, chez vous. Hérode est en colère. Qu'est-ce qu'il fait ? Il persécute l'Église. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait même décapiter un des principaux de l'Église de Jérusalem, Jacques. Et comme ça plaît au monde, eh bien, la colère d'Hérode va encore plus loin. On arrête Pierre, on le met en prison. Et là, mes frères et sœurs, je vous demande vraiment toute votre attention. Regardez ce que Satan peut faire et regardez tout ce qu'il ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut arrêter Pierre. Il le fait. Il peut condamner Pierre. Il le fait. Il peut enfermer Pierre. Il le fait. Il peut mettre dans une prison. Il le fait. Il peut y mettre des chaînes. Il le fait. Il peut avoir des plans pour essayer de le détruire et de l'assassiner. Il y pense. Voilà ce qu'il fait. Ça, il peut faire. Par contre, ce qu'il peut pas, et ce qu'il ne pourra jamais, ce que Satan ne pourra pas, si vous lisez Acte 12, vous verrez que Hérode, il met Pierre en prison, il l'enferme, il le lie, mais il ne peut pas, Satan, il ne peut pas empêcher l'ange de venir. Il ne peut pas empêcher la lumière de briller. Il ne peut pas empêcher que Pierre se réveille. Il ne peut pas empêcher que les chaînes tombent par terre. Il ne peut pas empêcher que Pierre se rhabille. Il ne peut pas empêcher que Pierre se lève et qu'il marche. Il ne peut pas empêcher que les portes s'ouvrent devant l'ennemi. Tout ce qu'il fait est lié par ses faits, par ses paroles. Il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Car, je vous le disais tout à l'heure, partons de ce principe, mon Dieu me rend vainqueur et je puis tout par celui qui me fortifie. Si bien que dans Acte 12, nous voyons tout simplement Satan être obligé de regarder sa défaite sans pouvoir rien faire. Et l'Écriture nous dit que ce qui s'est passé de ce temps-là se passera encore aujourd'hui. Ma sœur, mon frère, qui passe actuellement par une épreuve semblable, ne baisse pas les bras. ce matin, ouvre la bouche, prie ton Dieu, plus loue ton Dieu. Dis, Seigneur, je t'aime et je sais que tu es vivant. Et frères et sœurs, croyez-moi que ça, Satan ne peut pas vous empêcher de le faire. Et que si vous le faites, il est écrit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de quelques ennemis, de tous mes ennemis. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce matin qui croient que cette parole est vraie? Et si elle est vraie, je dois la voir cette semaine, au niveau de tout ce que je peux rencontrer, car mon sauveur même, c'est l'appui de ma foi. L'appui de ma foi, c'est là. Et je voudrais, pour terminer, et vous apporter ces trois paroles que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous laisser sans commentaire. L'Écriture nous dit que si l'ennemi vient comme un fleuve, vous avez vu ce qui s'est passé dans le nord de la France, à Calais, tout ça, les eaux qui débordent. Vous avez vu la puissance de l'eau. Eh bien, quand bien même les difficultés viendront comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Frères et sœurs, Satan a peur de vous. Alors n'ayons pas peur de lui et confessons notre victoire et notre parole. On va faire un petit jeu, vous voulez bien ? D'accord. Bon, prenez Romains. Oui, Romains chapitre 8. Ah, quel beau chapitre 8. Qu'est-ce que ça fait comme bien de lire Romains 8 ? Vous l'avez ? Et alors dans Romains 8, l'apôtre Paul commence par ceci. Qui accusera les élus de Dieu ? Est-ce qu'il y a ce matin dans l'Église des élus de Dieu ?
Oui.
Qui accusera les élus de Dieu ? À votre avis ? À votre avis ? À votre avis ? À votre avis ? Personne ! Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Autre question. Qui accusera les élus de Dieu ? Mais Jésus est celui qui intercède. Vous direz, oui, frère, mais moi, j'ai pas beaucoup de bonheur parce que on dit du mal sur moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Des gens qui vous disent du mal ? Non ? Ça vous est pas... Ce qui fait encore plus mal, c'est les gens qui vous font un grand sourire. Une bonne claque dans le dos. Bonjour, mon frère, bonjour, ma sœur. Et derrière, paf ! Ça fait mal. C'est satanique, frère. Au mieux que quelqu'un vous fasse une grimace parce qu'il pense que de jouer au carnaval. Hein ? Eh bien, l'Écriture nous montre que si des gens nous calomnient, disent du mal de nous, qu'est-ce que ça vous fait ? Question. Ça fait pas plaisir. Mais je vais vous poser une question, vous allez répondre. Est-ce que Jésus croira le mal que les gens disent sur vous ? Alors, quoi vous allez vous en faire ? Si Jésus a fait des promesses, croyez-vous que Satan peut effacer les promesses que Jésus a faites ? Bon, alors on continue notre lecture qui est formidable. Qui condamnera les élus de Dieu ? Qui ? Christ est mort. J'attendais votre réponse. Il est ressuscité. Qui nous séparera de l'amour de Jésus ? À votre avis, qui peut ? La tribulation, vous répondez. Et pour bien comprendre, vous allez faire ce petit jeu, vous allez répondre, peut pas. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La tribulation ? Pardon ? Peut pas. L'angoisse ? La persécution ? La faim ? La nudité ? Le péril ? L'épée ? Pourquoi ? Mais dans toutes ces choses, nous sommes par celui qui nous a aimés. Regardez le verset 38. Car j'ai l'assurance que, allez, on y va, que ni la mort, la vie, les anges, les dominations, les choses présentes, les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus, C'est là notre force. Qui peut
sauver ?
Dites-le encore. Au cours de cette année, mes frères et sœurs, prenez un carnet et faites deux colonnes. Ce que le diable ne peut pas faire et ce que vous, vous pouvez faire. Et vous réaliserez que vous pouvez tout par la grâce infinie du Dieu vivant et vrai. Alors, terminons par ces trois promesses. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire, oui, mais vous avez oublié une chose. Oui, vous avez oublié la malédiction. Vous savez, il y a dans certains pays des gens qui ont des gris-gris, le vaudou, il y a des spirites et il y a des Balaam, ça existe encore. Eh bien, quand Balaam a voulu maudire le peuple de Dieu, Dieu a dit « c'est pas possible ». Satan ne peut pas maudire ce que Dieu bénit.
Amen.
Êtes-vous bénis?
Amen.
Sommes-nous bénis?
Amen.
Voulons-nous être bénis?
Amen.
Alors, béni soit Dieu, nous sommes vainqueurs.
Amen.
Donc, voici mes trois vœux. On y va? Alors, c'est Ésaïe, et on terminera, pareil, au chapitre 41, cette fois-ci. Et si cette semaine, vous avez l'occasion, je vous propose, frères et sœurs, de lire chez vous Ésaïe 40 et 41, et si Dieu nous permet d'être vivants la semaine prochaine, on fera le bilan de ce que vous avez lu. Ésaïe 40 et 41, toute cette semaine, lisez là-dedans et notez sur un petit papier et on en fera le bilan, si Dieu nous prête vie, la semaine prochaine. D'accord ? Alors, regardez. Je disais au Seigneur... Seigneur, qu'est-ce que je peux dire à mes frères et sœurs, pas simplement bonne année, bonne santé. Et c'est là qu'il a tiré mon attention sur, tu leur diras Ésaïe 41. Alors j'ai été voir et j'ai trouvé. Première parole, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Regardez bien mes frères et sœurs ce qui est écrit ici. Ne crains point. Ne promène point des regards inquiets, je te fortifie. Voilà la première parole que je voudrais vous garder toute cette année. Dieu s'engage à te fortifier. Qu'est-ce que ça signifie être fortifié? C'est-à-dire avoir à l'intérieur de soi une force et un courage nouveau. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Monsieur Gédéon, qui était peureux et craintif, et Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Je te fortifie. Au cours de cette année, le Seigneur nous dit ce matin, mon fils, ma fille, je te fortifie. Tu passes par l'épreuve, tu passes par le deuil, tu es malade, tu as le chômage, tu as des ennuis d'argent. Je suis celui qui te fortifie. C'est la première promesse, je te fortifie. Deuxième promesse, je viens. Je viens pour te condamner.
Non.
Oh, je viens pour te juger.
Non.
Je viens. Allez-y. Je viens à ton secours. Qu'est-ce que ça veut dire, venir au secours de quelqu'un? Ça signifie l'aider. Vous rendez compte, frères et sœurs, qu'un jeune roi, je crois que c'est le roi Ozias. Il commençait très jeune, et puis il avait 16, 17 ans. Eh bien, l'Écriture nous dit que Josias, Dieu l'a aidé. Et parce que Dieu l'a aidé, tous les peuples qui étaient opposés ont été vaincus. Ce qui est indispensable, c'est de croire qu'au cours de cette année qui s'ouvre, Dieu va t'aider. L'Écriture nous dit, Dieu va t'aider, c'est-à-dire te permettre de sortir vainqueur. Car, n'est-il pas écrit dans la Bible que le Saint-Esprit fait une chose particulière? Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit ? Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait encore ? L'Esprit, oui, le pasteur vient me souffler le mot. L'Esprit nous aide. Mais mes frères et sœurs, il peut aider que certaines personnes. L'Esprit nous aide dans notre... Si je me crois fort, si je me crois tout puissant, si je me crois meilleur que tout le monde, vous croyez que le Saint-Esprit va m'aider ? L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et ce qui est vrai, vous l'avez constaté, des fois dans notre faiblesse, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va demander. Eh bien, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse en mettant sur nos cœurs les sujets de prière que Dieu veut que nous fassions. Et à cause de ça, par la grâce de Dieu, nous sommes vainqueurs. Ainsi, au cours de cette année, quoi que ce soit qui se passe, dans les gouvernements, chez les ministres, chez les peuples, tous ces bruits de guerre, la première chose, c'est que Dieu s'engage à nous. Dieu s'engage à nous. Bien. Dieu s'engage à nous. Bien. Et la troisième. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens. Vous savez ce que ça veut dire, soutien ? Ça signifie pas simplement nous tenir, mais soutien. C'est-à-dire nous tient en dessous. Sous. Ce qui ne se voit pas. Et heureusement que beaucoup de choses sont basées sur du solide. Une maison tient le coup si elle est basée sur le rocher. Et le rocher, c'est le soutien. Et il y a un beau chant qui dit « Le Seigneur est le soutien de ma vie ». Frères et sœurs, plusieurs d'entre nous pourraient dire ce matin « Seigneur, jusqu'à maintenant, tu m'as toujours soutenu. Il ne manque jamais. » Et l'Écriture l'affirme « Je suis celui qui te soutient ». Et je pense à ce psaume, voyez-vous, 145, qui dit « Le Seigneur est le soutien de ceux qui ne tombent jamais ». À votre avis ? Vous voulez que je vous lise ce qui est écrit dans la Bible ? Le Seigneur est le soutien, il soutient tous ceux qui tombent et relève tous ceux qui sont courbés. Ce matin, mon frère, ma sœur, est-ce que tu vas accepter que l'oppresseur t'accuse ? Il t'a fait tomber, t'a fait piéger, et tu dis maintenant c'est fini. Tu avais reçu des dons. Et tu dis, j'ai tout lâché. Mon frère, ma sœur, de la part de Dieu, la Bible nous dit que Dieu est capable de te soutenir et de soutenir ceux qui sont tombés. Est-ce que, au cours de cette année, il y a des moments dans la vie où tu as chuté ? Ça ne regarde pas. Non, non. Mais on le sait bien. Il y a des points où on a chuté. Il y a des points où on est tombé. Eh bien, Dieu me charge de te dire, oh, ce matin, il te soutient pour te relever. Non pas pour te maintenir tombé, bien sûr, mais pour te relever. L'Écriture nous dit, voilà trois paroles que je te donne devant l'oppresseur qui te touche, qui t'attaque, qui a colère. Je te donne trois paroles. Cette année, je te... Cette année, je te... Je te... Secours. Et cette année, je te... Vous croyez que c'est vrai ?
Oui.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Il, par la grâce de Dieu, il est capable de me soutenir, de m'aider et de me fortifier dans tous les domaines de ma vie. Voulez-vous que nous courbions nos fronts un instant ? Ma sœur, mon frère, peut-être que depuis des mois, on n'entend plus ta voix dans l'Église. Tu es là ce matin et des pensées sont là dans ton cœur en disant « faut que j'aille ailleurs, ailleurs c'est mieux ». Ici tu as connu la grâce de ton Dieu et c'est là qu'il veut te soutenir. Peut-être tu t'es laissé piéger au cours de l'année, alors tu n'oses plus prier. Tu n'oses plus prendre la Sainte Cène. Tu n'oses plus servir le Seigneur. Est-ce que tu veux ce matin qu'il te fortifie ?
Est-ce que tu désires ce matin qu'il t'aide? Est-ce que tu le désires ce matin qu'il t'entoure de ses bras d'amour? Mon frère, ma sœur, si en ce culte qui t'est donné ce matin, tu élevais ta voix pour adorer Dieu avec tes frères et tes sœurs, au lieu de ne plus écouter et de regarder ta montre pendant le culte pour savoir si c'est bientôt fini, mais de tout ton cœur dire « Jésus, je t'aime, mon Sauveur m'aime ». Est-ce que tu pourrais dire cette phrase dans la prière? Eh bien, si tu peux, tu vas être vainqueur. Voici les trois promesses que je rappelle à ton cœur qui sont importantes. Il est écrit « Je te fortifie, je vais t'aider et je vais te soutenir ». Quoi que ce soit que tu vas rencontrer demain, si tu es dans la volonté de Dieu, il te soutiendra et tu seras vainqueur. Tu as rendez-vous pour des examens de santé, il te soutiendra et il t'accompagnera. Tu as rendez-vous pour le travail, il te soutiendra et il pourvoira à tes besoins. Tu as besoin de ta grâce et de consolation, c'est lui qui console et lui seul, car le Saint-Esprit s'appelle le Consolateur. Amen.